Nous sommes très heureux d'accueillir notre frère Guénolé Jessé. Peut-être que certains ont eu la joie soit de le rencontrer, soit de lire un de ses ouvrages que tu as rédigé au long de toutes tes expériences en terre d'islam. Et cette relecture que tu vas nous proposer, on a bâti cette journée en lien avec les 800 ans de la rencontre entre saint François d'Assise et le sultan d'Égypte. Frère Guénolé nous en a un petit peu parlé ce matin durant l'homélie, mais il va prendre le temps de nous expliquer, après s'être présenté, eh bien, quel retentissement cet événement a pu avoir dans la vie de Saint-François, également, j'imagine, du côté des musulmans. Probablement, j'imagine, la présence des franciscains sur la terre d'islam, et puis sa longue expérience qu'il a pu vivre au fil de ces décennies. Donc on a du temps, puisque les vêpres sont à 17h, on prendra un petit temps de battement, surtout un temps de questions à l'issue de cet entretien. Donc encore bienvenue à notre frère, et nous avons hâte de t'entendre.
Alors d'abord je vous dis ma joie, je suis tout à fait heureux de me retrouver à Brive. J'ai fait des séjours avant de partir en Turquie, quelques mois ici, plusieurs fois au moins, un ou deux mois, quand j'attendais de partir en Turquie, que j'avais donné mon oui pour partir, mais qu'on cherchait d'autres compagnons. Et puis je suis revenu il y a 3-4 ans, je crois, pour présenter un peu mon livre. Mais surtout, je témoignais en même temps qu'un ami musulman, je ne sais pas si certains se souviennent de cela, Saïd Ali Koussaï, qui, peu de temps après qu'on avait commencé à faire ce témoignage ensemble, a subi un accident de voiture lorsqu'un prêtre le ramenait chez lui après qu'il ait eu assisté à un mariage islamo-chrétien, enfin, un mariage qui avait lieu à l'église, mais où il était, comme il disait, le témoin musulman. Et il a été dans le coma plus d'un mois, et il a mis 2 ans à s'en remettre. Il doit être complètement remis parce que j'ai appris la semaine dernière qu'il fallait que j'aille fin novembre à Paris pour une journée avec lui, où on parlerait ensemble. Alors c'est bon signe pour lui. Pour moi, ça va faire encore un jour de plus. Je crois que je vais avoir une année chargée à l'occasion du 8e centenaire, justement, de la rencontre de Saint-François et du sultan. Alors, à propos de mon parcours, je viens d'en faire une conférence de 50 minutes à Caen. Il ne faut pas que je recommence ici, cette fois-ci au moins. Mais rapidement, pour vous situer mon expérience, je ne suis pas un islamologue. J'ai été chargé de remplacer quelqu'un qui était nommé pour créer une commission des relations avec les musulmans en Côte d'Ivoire. Et je le remplace encore. Donc, ça fait 50 ans que ça dure. Et il y a eu 4 étapes tout à fait différentes. Mais toujours, le Seigneur me ramenait toujours dans l'islam, surtout dans les musulmans. La première étape, c'est donc en Côte d'Ivoire, 19 ans, de découverte de l'islam de l'intérieur et de rencontre de plusieurs amis musulmans, mais spécialement d'un saint de l'islam. Un homme tout simple, mais qui était un saint, et que je considère aujourd'hui comme un père spirituel pour moi, qui m'a appris à être davantage chrétien, je dirais, en ayant un cœur plus large. La deuxième étape, c'est quand, en 1982, l'ordre a rassemblé des frères des 4... oui, il n'y avait pas le 5e continent, mais 4, à Assise, une quinzaine de frères, pour réfléchir sur l'approche franciscaine des musulmans, à partir de nos expériences. Et à la fin, il a été décidé de créer une commission de l'islam pour l'ordre franciscain. C'est la première fois que ça se faisait dans un ordre. Et le sort tomba sur moi, sans doute parce que j'avais plus de loisirs que les autres. Mais je suis reparti en Côte d'Ivoire à la fin de ce congrès. Et je me demandais ce que j'avais à faire là-dedans. Et puis, un conseiller général s'est quand même inquiété de savoir « Mais qu'est-ce que tu fais à propos de la commission ?» Ben, je dis « Je ne sais pas, donnez-moi des conseils. » Alors, on m'a dit eh bien, tu devrais aller voir les frères dans les pays musulmans, les écouter, les encourager, et voir un peu comment ils vivent ça. Alors à ce moment-là, mes chaussures n'ont fait qu'un tour. Et j'ai commencé à visiter un certain nombre de pays, et de rencontrer les frères, de les admirer, de voir aussi des situations tragiques. Le troisième appel, c'est quand je suis rentré en France définitivement, en 1993. Alors là, il y a une petite... Je demandais une année sabbatique, on m'a nommé maître des novices. Alors je suis passé de la planète islam à la planète novicia. Très riche de souvenirs, mais en même temps très différente, évidemment. Et je pensais que c'était fini, pour moi, la question de l'islam, enfin, en tant que responsabilité. Mais 3 ans après, j'ai été remplacé au noviciat, et le secrétaire de l'épiscopat pour les relations avec les musulmans m'a demandé de venir avec lui. Et le provincial ayant trouvé que cela était bon, j'ai pris cela pour un troisième appel, et je suis rentré au commissariat. Alors là, après, j'irai la connaissance de l'islam africain et l'islam en lui-même en profondeur, après avoir vu d'autres islams sur ma route, c'était l'islam de la migration, de l'immigration que vous connaissez un petit peu en France. Ce fut la période la plus courte, mais aussi la plus difficile peut-être pour moi, parce que je n'avais pas de relation à la base, puisque j'étais parti à une époque où il n'y avait pas encore beaucoup de musulmans en France. Et ça a duré 4 ans. Et là, je pensais que j'avais 66 ans, que j'allais un peu, non pas prendre ma retraite, mais me consacrer à prêcher des retraites sur la rencontre. Et l'Esprit Saint veillait sans doute, parce que un beau matin de décembre, fin de l'année 2001, un coup de téléphone résonna dans ma chambre, au couvent de Paris. C'était le ministre général de Rome qui commençait par me dire « Guénolé, prends une chaise ». Vous sentez la catastrophe dans ces cas-là. Et donc, il me demandait d'aller en Turquie pour la création d'une fraternité internationale dépendant directement de lui pour le dialogue écuménique. C'était prévu, mais ça ne se faisait pas. Et ajouter l'interreligieux. Et alors, il a pensé à moi. Et donc, en 2001, je me rappelle de lui avoir envoyé un email en lui disant « Je suis comme Jonas, je cherche toutes les raisons de te dire non. J'espère que tu n'auras pas besoin d'une baleine. » Il me répondit aussitôt « Merci pour ton obéissance. » Et c'est comme ça que je suis parti pour le 4e appel pour 3 ans ou 6 ans et qui a duré 12 ans. 12 ans, je dirais que la période de l'achèvement avec des rencontres extraordinaires avec des derviches tourneurs dont on pourra parler peut-être dans les questions après. Voilà. Alors, je vais peut-être en venir à ma conférence. Alors, je vous rassure, si vous dormez, soyez tranquille, je ne vois pas. C'est bien commode, les tablettes, vous savez. Si vous avez des difficultés pour voir un jour, n'hésitez pas. Il faudrait peut-être que je sois au début de mon texte. Voilà. Donc je l'intitule « Une rencontre de croyants ». Al-Malik Al-Kamil, le nom du sultan, et François d'Assise. La rencontre a lieu pendant la 5e croisade, en 1219, d'où le 8e centenaire l'année prochaine, près de Damiette, ville située sur la Méditerranée, à mi-chemin entre le canal de Suez et Alexandrie dans le delta du Nil. Si on avait compris cet événement, la situation entre chrétiens et musulmans aurait pu être une histoire beaucoup moins conflictuelle. Sachant que les 8 croisades officiellement recensées se déroule entre 1096 et 1270, nous pouvons jeter un coup d'œil sur la dynastie Ayyoubide, dont fait partie Al-Malik al-Kamil, qui règne entre les 3e et 7e croisades. Malik al-Kamil n'est pas un arabe, n'est pas un turc, c'est un kurde. Alors ça, j'ose à peine le dire en Turquie actuellement. Malik al-Kamil, qui va recevoir François, est le fils de Malik al-Adil, frère, cadet et confident de Salah al-Din, le grand Saladin, chanté par les croisés eux-mêmes, qui a repris Jérusalem en 1187. Avec cet oncle et son père, Al-Kamil est le 3e sultan de la brève mais courageuse dynastie des Ayyoubides, qui dut faire face aux 3e, 4e, 5e, 6e et 7e croisades. Certes, la 4e se termina dans la honte du sac de Constantinople en 1204, mais Al-Adil crut bien que c'était pour lui. À la 7e, 1248-1250, Al-Sayyid Ayyub, le fils d'Al-Kamil, ne vit pas longtemps, mais c'est déjà un peu moins un homme comme les trois premiers de la dynastie. Quant à son fils qui lui succède, donc très vite, il durera encore moins longtemps parce qu'il sera assassiné par les Mamelouks, les esclaves soldats. Pendant la 7e, vous le savez peut-être, Saint-Louis est prisonnier et il faillit bien mourir à la Mansoura. Surtout quand son geôlier est assassiné, donc par les soldats esclaves, les Mamelouks, qui fonderont une dynastie quelques années plus tard, la dynastie des Mamelouks, mais qui gouvernèrent en attendant de se sentir capables de gouverner après avoir tué le sultan. Ils gouvernèrent avec la veuve de l'avant-dernier sultan et Shagara al-Dur, une femme étonnante. Mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Revenons à Al-Malik al-Kamil. Il connaît les Francs depuis la 3e croisade. En 1192, il accompagnait parfois son père Al-Adil dans les négociations avec les croisés pour le compte du sultan de l'époque, Saladin. Le jeune homme fit l'expérience de relations courtoises entre ennemis. Ainsi, pendant une trêve, Al-Adil est fait chevalier dans une cérémonie interreligieuse. Al-Adil ou Al-Kamil, les historiens discutent là-dessus. C'est le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, qui a voulu le faire chevalier. Je ne sais pas ce qu'il a fait comme rituel interreligieux, il ne me l'a pas légué en héritage. Mais ça a dû être drôle. Dans l'autre sens, alors que la bataille fait rage, donc à la même époque, le même Richard Cœur de Lion voit son cheval tomber mort et pourrait bien être pris ou tué, mais le prince Al-Adil lui fait envoyer un magnifique étalon. La bataille ce jour-là s'arrête car le geste stoppe les ardeurs belliqueuses de tous. Devenu seulement sultan un quart de siècle plus tard, Al-Kamil, comme son père, veut la paix pour développer l'Égypte, et quand de nouveau les croisés sont en face de lui à Damiette, après quelques mois de siège, il est prêt à rendre Jérusalem, tout en espérant bien sûr qu'en des jours meilleurs, l'islam pourra récolter la ville sainte. Hélas, le légat du pape, Pélage, un sinistre bonhomme, Pélage, qui veut jouer les chefs de guerre au lieu d'être le légat simplement du pape, pense obtenir bientôt la destruction de l'islam lui-même et ordonne de marcher sur le Caire. Le sultan sait se montrer généreux. Il refuse, comme le voulait son frère Al-Muazzam, sultan de Damas, il refuse de noyer 30 000 croisés, engagés stupidement par Pélage dans une plaine facile à inonder. Les Francs quitteront la boue en proclamant la générosité du roi musulman et en pleurant les querelles de leurs chefs qui les auront conduits à une défaite sans précédent. Al-Kamil a donc laissé le souvenir d'un homme très droit. Son attitude envers François est caractéristique de son tempérament. C'est un homme qui est entouré de soufis, donc de mystiques de l'islam, et en premier de son père spirituel, Fakhr al-Din Farisi, un vieillard de 90 ans, qu'il a amené avec lui au milieu de la guerre, mais parce qu'il en a besoin, et qu'il aime toujours s'entourer de mystiques. En juillet, août 2019, François d'Assise arrive à Damiette, où la bataille pour la conquête de la ville dure depuis 15 mois. Son but est de parler aux musulmans et non de faire la guerre. Et il attend l'heure de Dieu. Elle vient en septembre, lorsque les chefs des armées épuisés, avec des milliers de morts, tombent d'accord pour une trêve de 3 semaines. François est le frère illuminé, son compagnon depuis 1210, qui a vécu en Sicile et a pu apprendre l'arabe en Sicile, puisque c'était une culture, rappelez-vous, la milice de l'empereur germanique qui envahit le jardin de Sainte-Claire. C'était des musulmans de Sicile. Donc il a pu apprendre l'arabe et a peut-être servi d'interprète. Il y a d'autres interprètes possibles aussi. Ils en profitent pour passer dans le camp musulman. D'abord pris pour des espions, ils sont frappés. Mais bientôt les soldats hésitent. Ces deux hommes désertent peut-être l'armée chrétienne, ou bien ce sont des plénipotentiaires venus négocier la paix. Selon leur désir, on les conduit au sultan. Imaginez cette scène extraordinaire. François et Al-Kamil, un mendiant chrétien et un roi musulman, le frère de race des croisés et le chef des sarrasins, en pleine guerre sainte. Ainsi, les chrétiens ne sont pas tous des hommes assoiffés du sang des croyants. Ces deux hommes venus à lui sans escorte et sans mandat ne peuvent être les représentants des chefs de guerre pour avancer dans la négociation. Le serviteur du Christ, François, écrit sa bonne aventure, répondit qu'il avait été envoyé d'au-delà des mers, non pas par un homme, mais par le Dieu très haut. Ainsi François ne craint pas de dire qu'il vient poussé par Dieu, se démarquant ainsi des croisés et même du pape. On voudrait savoir le détail des entretiens, mais nous n'avons guère de compte-rendu. Mais un premier point est tout de même certain. Le moine, entre guillemets, comme on l'appelle, s'affirme chrétien. Et un second point est aussi certain, on l'écoute parler. Plusieurs jours passent. Les deux frères ont la possibilité de voir de près ces sarrasins, à qui on reproche depuis des siècles, à tort parfois, mais aussi à raison, la persécution des chrétiens et la conquête de la terre du Christ. Comme c'est étrange. Ces fils du diable, comme on les appelait, sont des priants. 5 fois par jour, François et illuminé écoute le muezzin lancer l'appel à la prière. L'homme de Dieu, venu du pays des Francs, découvre dans la lumière divine un aspect inconnu. Ces gens ne sont pas seulement ses frères comme créatures, il le savait. Ils ne sont pas seulement ses frères à cause de Jésus, qui, selon sa foi chrétienne, a versé son sang pour tous et par là même a fait de tous les humains des frères et sœurs. Ils le savaient aussi. Ils sont encore, à mon avis, c'est la grande découverte de François. Ils sont ses frères par ce lien dans la prière au Dieu unique. Allah, comme il l'appelle, ne peut pas fermer ses oreilles à ses enfants tendus vers lui. chaque matin et chaque soir. Le sultan, dont le camp est à une bonne quinzaine de kilomètres de la ville, longe les remparts de Damiette pour vérifier l'engagement de ses troupes dans la surveillance de l'ennemi. Durant la journée, il profite de la trêve pour mieux gérer son royaume. Il prend aussi intérêt à écouter ces moines étranges venus du pays des Francs. On ne saurait dire le nombre d'entretiens, mais l'attitude de Al-Kamil à l'égard de François laisse deviner une complicité de l'esprit. Le roi voudrait bien garder cet homme de Dieu si différent des guerriers d'en face. François parle de son maître Jésus, que le sultan vénère comme un prophète. Ce moine parle des différences avec la foi musulmane en disant que Jésus est Dieu et sauveur, mais le sultan ne trouve pas la matière à blasphème. L'Italien qu'il a en face de lui semble habité par l'au-delà, et comme les vrais soufis dont il aime à s'entourer, de celui-ci aussi émane une aura mystérieuse et reposante. Ses conseillers religieux et lui ne se fatiguent pas. Ils sont fascinés par ce petit homme de 37 ans qui en paraît beaucoup plus car il ne ménage pas son corps. François était venu pour dire aux musulmans « Jésus a versé son sang pour vous aussi et nous sommes tous frères en lui ». Bien sûr, il souhaiterait que le sultan devienne chrétien, mais il doutait de la bonne réception du message. Il s'attendait même à être tué. Or, tout se passe bizarrement. On l'a laissé parler tout son soûl, et au lieu de le mettre à mort, on l'aime comme il est, et on est prêt à le garder. En portant tout cela dans son cœur, François est très probablement un peu déstabilisé quand approche la fin de la trêve et que le temps de repartir est arrivé. S'il ne peut retenir ce soufi chrétien, le sultan veut marquer sa déférence à son égard. Il voudrait lui laisser de somptueux cadeaux et de l'argent. Mais François est pauvre pour imiter, comme il dit, Jésus, la Bienheureuse Vierge et ses disciples. Il ne peut donc qu'accepter. Décidément bouleversé par ce saint homme, Al-Kamil s'engage très loin. Habitué à donner pour les pauvres et les temples de sa religion, le roi dit à François d'emporter cela pour les chrétiens pauvres et les églises. Voilà un bel exemple d'ouverture, on dirait aujourd'hui, interreligieuse. Le poverello refuse encore. Il est arrivé sans armes, il repartira sans richesse. Il ne condamne pas le beau geste du roi, mais sa manière à lui d'imiter le Seigneur Jésus est radicale. À l'heure de l'adieu, le musulman se recommande à la prière du chrétien et comble de prévenance afin de mieux protéger et montrer son estime envers cet ami tombé du ciel. Le sultan lui adjoint une escorte de princes jusqu'au No Man's Land. On peut imaginer Sarrasin et Croisé, les yeux écarquillés devant cette surprise finale. On peut imaginer aussi Al-Kamil, caché dans une tourelle des remparts et ne la quittant que lorsque les deux silhouettes des frères eurent disparu, entourés par ces Francs qui leur ressemblaient si peu. Après quoi il ne lui restait plus qu'à reprendre sa ronde et bien malgré lui à préparer ses hommes à la guerre qui va recommencer. J'en viens au retour et à une réflexion. Rentré en Ombrie, François considéra-t-il son aventure comme un échec? Non. À Assise, il a repris la rédaction de la règle de vie qu'il veut laisser à ses frères. il rédige un chapitre pour ceux qui vont chez les Sarrasins et autres non-chrétiens. Les frères qui s'en vont ainsi peuvent envisager leur rôle spirituel de deux manières. Ou bien ne faire ni procès ni dispute, être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et confesser simplement qu'ils sont chrétiens. Ou bien, s'ils voient que telle est la volonté de Dieu, annoncer la parole de Dieu afin que les païens croient au Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes choses et en son Fils Rédempteur et Sauveur, se fassent baptiser et deviennent chrétiens. Il y a donc deux méthodes. La seconde est traditionnelle, construire la communauté chrétienne avec les conversions. La première est une révolution. Sans empêcher les passages d'une religion à l'autre, si la démarche est bien spirituelle, il y a une autre façon de vivre chez les autres croyants. Sans du tout trahir sa conscience, il s'agit de promouvoir et de vivre la fraternité dans la prière et l'amitié. Dans le passage que je viens de signaler dans la règle de vie des frères, deux mots me semblent très importants pour les chrétiens qui veulent être instruments de paix entre les créatures de Dieu. Le mot « soumis », soumis à l'autorité musulmane, en tout ce qui ne touche pas à la foi. Vivre parmi, en témoin de Dieu amour, Père de Jésus-Christ et notre Père à tous. François d'Assise, je l'ai dit plus haut, a découvert dans les ennemis des gens qui prient. Ceux qu'il voulait déjà regarder comme des frères, quoique ennemis, sont des frères priants. Il perçoit l'œuvre de Dieu dans les non-chrétiens, inimaginable pour l'époque. Le dialogue interreligieux qui mettra encore 7 siècles pour jaillir à la surface de la terre, avait une de ses sources près du Nil, dans le camp sarrasin, lorsqu'en septembre 1219, deux hommes acceptèrent de faire ensemble une partie du chemin. Alors pourquoi cette rencontre a-t-elle été oubliée? À cause de l'esprit de croisade. François avait envoyé, à la même époque que lui partait, des frères vers le Maroc. Tous originaires d'Italie, Vital, Othon, Bérard, Adjut, Acurs et Pierre, quittaient leur pays avec un enthousiasme italien qui ne faiblira pas un moment. Ils arrivent en Andalousie, tellement pressés de mourir qu'ils faillirent ne pas voir le Maroc. Pour pénétrer dans la ville de Séville, ils ont quitté l'habit religieux, si on en croit une chronique du XIVe siècle. Ils auraient reçu des habits séculiers de la sœur du roi du Portugal. Cette pauvre femme a un peu le Maroc dans son cœur, car Dom Pedro, fâché avec le roi, leur frère commun, est devenu chef de la garde du sultan. Il est toujours mieux gardé par les autres. Face au prince de Séville, sans plus de forme, les frères affirment « Nous sommes du parti des Romains. » Les Romains, ces ennemis dirigés par le pape, qui veulent chasser d'Andalousie tous les musulmans. « Que venez-vous faire ici ? Nous venons vous annoncer la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que vous abandonniez Mahomet, ce vil esclave du diable. » L'effet est radical. Et le prince veut leur trancher la tête, mais son fils l'incite à la prudence. 7 ans plus tôt, il y a eu la fameuse bataille de Las Navas de Tolosa. Les chrétiens sont devenus très forts. La Reconquista est en bonne marche et il vaut mieux éviter des représailles. Le prince se débarrasse d'eux en les expédiant à son chef, le sultan qui réside à Marrakech. Là, les frères clament la grandeur de la religion chrétienne et insultent l'islam et son prophète. Par deux fois, ils vont se trouver sur le passage du jeune sultan Al-Mustansir. ainsi que ses sujets, il prend les énergumènes pour des fous et se contente de les emprisonner. Ils sont libérés 20 jours plus tard et Dom Pedro est alors chargé de les reconduire à la frontière du Nord. Mais ceux-ci s'échappent. Les voilà à nouveau sur la grande place de Marrakech. C'est un vendredi et le sultan est sorti de son palais pour aller prier à la mosquée de la Koutoubia, toute neuve. Quelle belle occasion pour frère Bérard qui s'arrange pour se faire voir et entendre. Mahomet vous a conduit par un faux chemin et le mensonge à la mort éternelle, où il est éternellement tourmenté avec ses sectateurs. Bien sûr, ils sont arrêtés et probablement torturés. Mais leur attitude indomptable conduit le sultan à la crise de nerfs. De sa propre main, dit la chronique, il tranche la tête à chacun des cinq frères. C'était le 16 janvier 1220. Le pape Honorius III, en 1225, prêchera la modération. Et le 20 février 1226, il écrira à l'archevêque de Tolède chargé de la mission du Maroc d'envoyer des hommes prudents. Qu'ils s'appliquent à marcher avec précaution auprès de ceux qui sont extérieurs, c'est-à-dire les musulmans. Non comme des insensés, des indiscrets et des impétueux, mais en sage, prudent, d'âge mûr, comme il convient. Pourtant, ils deviendront le modèle. Les reliques rapportées au Portugal vont exciter la dévotion des pèlerins et les hagiographes en rajoutent certainement, mais l'atmosphère de Marrakech n'est pas celle de Damiette. Cela me semble clair. Le seul avantage des reliques, vous le savez ici à Brive, c'est que saint Antoine, en voyant passer les reliques, décide de se faire franciscain. Mais Damiette, c'est la rencontre sans martyr. Marrakech, c'est le martyr sans rencontre. Damiette, c'est la rencontre de deux croyants. Marrakech, c'est l'affrontement de deux systèmes. Marrakech, c'est l'impasse. Damiette, c'est l'avenue qui ouvre les horizons. L'esprit de croisade est le mauvais fruit d'une église sociologique, d'une cité fermée. Le contraire, évidemment, de ce que propose le pape François parlant d'une église en sortie. C'est la même chose dans les pays d'islam. Chrétiens et musulmans, nous devons tous nous convertir, non à l'autre foi, mais pour certains qui, après avoir beaucoup réfléchi et prié, pensent qu'en conscience, ils doivent changer de religion. Nous devons nous convertir, c'est-à-dire personnellement et collectivement, se retourner toujours vers Dieu et vers autrui. François d'Assise est revenu de l'Orient plus chrétien qu'avant. Après son expérience de l'approche de l'autre, insistant sur les mystères chrétiens, l'incarnation à Gubbio, la rédemption à l'Alverne. Plus chrétien aussi, avec son cœur élargi vitalement à ceux qui ne sont pas de sa rive, il souhaite que ses frères repartent. François n'est pas un révolutionnaire. Il ne détruit pas la Bastille. Il vit l'Évangile et les murs tombent par ses rencontres. Son cheminement est intéressant à repérer. Il se fait en trois étapes. Il passe d'un christianisme sociologique à l'amour passionné du Christ. De la mentalité de conquête à celle de la rencontre, de l'esprit de croisade à l'esprit de fraternité. D'abord, François passe du christianisme sociologique à l'amour passionné du Seigneur Jésus. François croit être dans la bonne ligne de l'Évangile en se mettant au service d'Innocent III qui combat contre l'empereur germanique. Mais sa vie bascule. Les rêves de chevalerie s'évanouissent. Pauvreté et dépouillement deviennent sa ligne de conduite. Cela donne à François d'Assise l'aptitude à la rencontre, la grâce de la rencontre. Et après le baiser aux lépreux, c'est la rencontre à Saint-Damien d'un crucifié. Un vrai coup de foudre. Deuxième étape, la rencontre du Christ le bouleverse, ne l'enferme pas. Cette rencontre le renvoie vers les autres. François est en train de passer de la mentalité de conquête à la mentalité de la rencontre. Chaque type de rencontre, celle des lépreux, celle des brigands, celle du loup, celle du sultan, entraînera la chute d'une muraille, d'une peur, d'une frontière. François apparaît comme un personnage à contre-courant. Sa vision de l'Évangile en faisait un homme hors les murs. Troisième étape, de l'esprit de croisade à l'esprit de fraternité. Pour François, la rencontre des hommes est une affaire de fraternité. Le Christ est mon frère, le Christ est frère de tout homme, donc tout homme est mon frère ou ma sœur.